Bonjour à chacun et chacune, ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir. C'est un plaisir, ça faisait 3 semaines qu'on n'était pas ici au culte dimanche matin à Vendôme, et ça fait plaisir de vous retrouver. Avec Sophie, on a réfléchi, enfin en tout cas, on a essayé de travailler à l'harmonie de ce culte, et ce qui nous a inspiré, c'est au travers de notamment de cette histoire du bambou et de la fougère, que Sophie nous a raconté, qu'on pourrait résumer en deux mots, deux verbes, persévérer, le thème, et s'enraciner. Et je vous propose de reprendre le texte qu'on a lu tout au début de Hébreux 12 et d'avoir une réflexion sur la persévérance radicale. Persévérer radicalement. Comme ça, ça fait un peu pompeux, mais on va essayer de préciser un petit peu, je vais essayer de préciser un petit peu les choses sur la base du passage de Hébreux 12. Et je vous propose de le relire. Et en le lisant, je vais vous proposer un défi. Ah oui, juste pour... il y a des traductions en anglais, en espagnol et en arménien. Si jamais vous avez besoin d'aller en chercher une, je crois qu'il y en a encore derrière, donc n'hésitez pas. Et s'il y a d'autres langues aussi qui auraient besoin d'être traduites, n'hésitez pas aussi à le transmettre, parce qu'en fait, voilà, on peut aussi traduire d'autres prédications. Le Saint-Esprit est à l'œuvre tous les dimanches ici, au travers de l'interprétation des langues. Voilà. Persévérer radicalement. Alors pourquoi radicalement, je le précise, c'est parce qu'en fait, le terme de radical, ça vient d'un mot qui est en fait issu de la racine. Et donc s'enraciner, c'est aller à la racine, c'est être radical. Être radical, c'est s'enraciner. Et donc je vous propose de lire le passage de Hébreux 12, des versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Alors, je vous propose une question sous forme de jeu ce matin. C'est de me donner les trois occurrences du mot persévérer ou persévérance dans ce texte. Est-ce que vous voyez où est-ce qu'il y a marqué persévérer, persévérance dans ce texte ? Est-ce que quelqu'un a une proposition à faire ? Rejetons tout fardeau. Alors, rejetons tout fardeau, c'est pas tout à fait le... Mais en fait, il y en a un qui est assez évident. Courons avec persévérance. Courons avec persévérance. Voilà. Celui-là, il est easy, hein. Il est facile. Je vous avoue que les deux autres sont un peu plus difficiles. Pardon ? Garder les regards sur Jésus, ça pourrait, on va y revenir. En fait, ça aurait été beaucoup plus simple si on avait été grec, en fait. Parce qu'en fait, il y a trois fois le même mot dans ce texte, et à chaque fois, il est traduit de manière différente. Et ça nous aide vraiment pas. En fait, la perfection, mène à la perfection. Alors, c'est pas le même terme que la persévérance, de courant avec la persévérance. Supporter, exactement, il y a donc celui qui a supporté, c'est le terme persévérer. Alors, je ne l'affiche pas tout de suite parce qu'en fait, il y en a encore un autre que j'ai mis juste avant, qui est dans l'ordre. Il a souffert. Il a souffert, c'est le même mot que courons avec persévérance. En fait, il a persévéré la croix, Jésus. Il a persévéré la croix. Et pensez à celui qui a persévéré une telle opposition. Alors en fait, vous voyez bien que c'est un mot qui recoupe différents termes. Ce mot, il veut dire persévérer, mais il veut aussi parfois dire faire preuve de patience, parfois supporter, parfois s'inscrire dans une constance ou dans une continuité, dans une fermeté. Alors la traduction que Sophie avait choisie, qui était la Bible du Semeur, ça nous aurait peut-être un peu plus aidé. Et je le lis parce que c'est assez parlant. Ils ont choisi le mot « endurance ». Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Et après, il est dit « il a enduré la mort ». Pensez à celui qui a enduré. Et peut-être que finalement, le terme le plus exact pour nous, Français, donc c'est là où on se rend compte qu'en fait, on n'a pas forcément accès à toutes les subtilités, c'est ce terme d'endurance. Endurance à la fois comme un effort, comme une course, et endurance aussi par rapport à ce que ça représente en termes peut-être de sacrifice, de souffrance. Voilà, c'était une petite introduction, juste pour vous montrer que ce texte-là, en fait, il est balayé par la persévérance et il nous montre ce qu'il en est par rapport à ça. Et donc, finalement, par rapport à notre sujet du jour, la question c'est, finalement, dans ce texte-là, où l'auteur nous dit en permanence, persévérez, persévérez, prenez exemple sur Jésus, qu'est-ce que ça veut dire exactement et quels sont les outils qu'on a à notre disposition pour persévérer? Et j'aimerais en dégager quelques-uns avec vous à partir de ce texte-là. Le premier outil qui nous aide à persévérer, c'est que nous ne sommes pas seuls. C'est que nous ne sommes pas seuls. Puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Alors juste avant, Hébreux 11, l'auteur de l'épître, de la lettre, il a parlé de toutes les personnes qui ont été des témoins de la foi au cours de l'histoire. Donc, on est entouré de la nuée, c'est les frères et sœurs, c'est toutes les personnes qui sont réunies, mais c'est aussi ceux qui nous ont précédés et qui ont été des exemples, des modèles et des témoins pour nos vies. Notre persévérance, elle s'appuie sur la fidélité des hommes et des femmes qui nous ont précédés. Puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Le cheminement, en tant que chrétien, ce n'est pas une route solitaire, ça se fait au milieu d'un peuple. Alors, certes, Dieu nous appelle chacun individuellement, et il nous appelle chacun personnellement, mais il nous appelle à rejoindre un peuple, une famille, une communauté, une église. C'est l'essence même de notre vie de foi. C'est là où il y a le cœur battant de la vie de foi. Et ce n'est pas si évident que ça, en tout cas j'y réfléchis, je me disais, parce qu'en fait souvent on considère quand même que le cœur de la foi, de la spiritualité, moi, je le considère souvent, et je l'ai souvent considéré comme étant basé sur la prière, sur la méditation personnelle, sur la rencontre individuelle avec Dieu, est-ce que j'ai pris du temps avec Dieu personnellement. Et finalement, après, parfois, on peut se dire, quand on se retrouve en église, avec les frères et sœurs, ou quand on est témoin à l'extérieur, auprès de nos prochains, dans nos familles, dans nos travails et tout ça, finalement, on pourrait dire que c'est un peu l'émanation de ce qu'on vit dans notre vie de foi. Mais je crois que, pour prendre une image et être très concret, j'ai l'impression que la spiritualité chrétienne, c'est l'inverse. Le cœur de la foi, c'est-à-dire là où on est dans le vif de l'action, c'est dans la relation. L'amour, c'est un concept relationnel. Et donc le cœur de la foi chrétienne, qui est basé sur l'amour, c'est la vie en communion. La vie en communion avec Dieu, la vie en communion avec les autres qui sont image de Dieu. Et donc c'est là, quand on se réunit, qu'il y a ce cœur battant qui, avec la présence de Christ aussi, qui nous invite. Là où deux ou trois sont réunis, je suis présent au milieu d'eux, au milieu de vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là quand on est tout seul, mais ça veut dire qu'il y a une présence particulière qui se manifeste quand on est ensemble. Alors, en réfléchissant, je me suis dit, mais on va peut-être me rétorquer, oui, mais tu ne peux pas dire que la prière individuelle, la méditation, la lecture biblique, ça ne sert à rien. Non, au contraire, c'est très très utile. Si je reprends mon image, un peu à l'image de ce que l'auteur nous propose, il compare ça à une course. Eh bien, en fait, si on devait reprendre cette image de la course, de l'endurance, et là, ça va peut-être parler à Valentin, en fait, je crois que la vie de prière, la vie de méditation, c'est un peu comme les séances d'entraînement de la vie chrétienne. En fait, c'est les séances de préparation qui vont faire qu'on va être prêt mentalement, spirituellement, disponible, peut-être aussi au niveau de notre attention, pour pouvoir pleinement vivre le cœur de notre foi chrétienne, c'est-à-dire rencontrer l'autre, aimer notre prochain, accueillir inconditionnellement, pratiquer la générosité, l'hospitalité et la bonté. Et donc c'est dans cette intimité de la relation à Dieu que c'est un peu, si je vais prendre un exemple aujourd'hui, c'est un peu comme si je vais muscler ma spiritualité. Je vais aller à la salle de sport, par la méditation, par la prière, et je vais muscler. Mais Jésus, il nous dit, ça ne sert à rien si tu restes dans la salle de sport. Moi, ce que je veux, c'est que cet entraînement, au travers de la méditation, de la prière personnelle, tu puisses après l'utiliser dans ta vie avec les autres et aller courir cette course avec persévérance. Et donc finalement, le but de notre entraînement, si on peut dire ça comme ça, de notre entraînement spirituel, c'est de pouvoir après rejoindre la foule de tous ceux qui courent et d'en inviter d'autres aussi, et de pouvoir courir ensemble avec persévérance cette course. Et je crois que c'est aussi dans ces relations-là que l'on verra si notre entraînement, par la prière, la méditation personnelle, par le contact avec la parole de Dieu, porte des fruits. Porte du fruit, celui de l'esprit. Alors voilà, pour persévérer dans notre marche, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. La deuxième interpellation que nous propose l'auteur, c'est « Rejetons tout fardeau ». On en a parlé tout à l'heure, « Rejetons tout fardeau » et le péché qui nous enveloppe si facilement. À première vue, à première lecture, on se dit que l'auteur nous dit « Ben voilà, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, on fait des erreurs, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des choses qui sont lourdes, hein, les fameux fardeaux, là. Et maintenant, bon, ben, apprends à jeter tes fardeaux et ce qui te pèse au quotidien, et puis refuse le péché. » Peut-être qu'on peut avoir cette lecture-là de manière superficielle, mais c'est oublier le contexte général de l'Épître aux Hébreux, qu'on n'aura pas le temps de lire ce matin, mais le fait d'avoir cette vision globale, ce raisonnement global que développe l'auteur dans cette lettre, en fait, ça nous permet de rentrer vraiment dans la compréhension du contexte. Et je crois que c'est à la fois le fait de saisir le sens premier, mais c'est aussi le fait de s'approprier aussi ce sens premier-là. Les fardeaux, c'est quoi ? En fait, à l'époque, les fardeaux, c'est la loi de Moïse. C'est ça qui pèse aux gens. C'est les œuvres que tous les jours je dois faire pour rester pur. C'est les offrandes, c'est les sacrifices qui sont prévus dans le système de la loi. Et c'est en fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il s'adresse à des juifs, mais qui sont chrétiens, qui ont suivi Jésus-Christ, mais qui se posent la question de dire, mais en fait, est-ce que vraiment Jésus-Christ suffit ? Et en fait, dans tout le parcours, à plusieurs moments, il dit, ben en fait, les sacrifices, c'est bon, Jésus, il a pourvu. À un moment, il y a un passage sur le grand prêtre, et il dit, votre grand prêtre ultime, c'est Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de retourner au temple de Jérusalem. Et donc, il y a tout ce changement de vie au quotidien. Peut-être que nous, on ne s'en rend pas forcément spécialement compte, mais en fait, ce changement de vie au quotidien, c'est libérateur pour eux. Ça enlève toute une série de fardeaux, de contraintes, d'obstacles, qui fait que du coup, il faut toujours que je sois bien, que je sois pur, pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Et Jésus, il a repris aussi, notamment les spécialistes de la loi et les pharisiens. Il n'y va pas de main morte, hein. c'est dans ce fameux passage-là où il les appelle hypocrites, où il dit qu'ils sont comme des tombeaux blanchis. Je me dis, c'est des insultes, quoi. Enfin, ou en tout cas, c'est quelque chose de fort. Et il leur dit, vous liez des fardeaux pesants et vous les mettez sur l'épaule des hommes, mais vous ne voulez pas remuer les doigts. Et en fait, ça, c'est le système légaliste que Jésus a critiqué. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle à ses auditeurs, vous avez été libérés de ces fardeaux-là. Rejetez le principe du mérite personnel, de « je vais pouvoir moi-même accéder à Dieu, être dans une attitude de justice vis-à-vis de Dieu, de gagner mon salut par moi-même ». Et donc le péché, donc, qui mentionne tout à l'heure, le péché en fait, c'est le fait, dans ce contexte-là, d'ajouter quelque chose à l'évangile de Jésus. De ne pas pleinement et radicalement, et on retrouve notre terme radical, de ne pas pleinement et radicalement compter sur l'œuvre de Christ et sur la grâce pour vivre au quotidien. Et du coup, de vouloir ajouter, le péché c'est ça, c'est de vouloir ajouter des principes, des règles, faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça, qui sont notamment issus de la loi de Moïse dans ce contexte-là. Et donc, pour persévérer, pour pouvoir avancer dans la course de la foi, il nous faut être libérés de ces fardeaux-là. Le Christ nous a libérés. Et notre appel, et l'appel que nous lance l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est ne nous remettons pas sous un nouveau fardeau, sous un nouveau légalisme qui nous entrave et qui nous empêche de vivre cette liberté que Christ a acquise. Une dernière interpellation, qui est probablement celle qui est centrale, le message central de ce passage-là, et je terminerai avec ça. Sophie l'a mentionné, et c'est vraiment la partie centrale. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi, et qui la porte à la perfection. Le cœur de la persévérance, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus, comme un funambule qui marche, qui fixe l'horizon pour ne pas perdre l'équilibre, ou alors comme un archer qui fixe sa cible pour être sûr de ne pas la rater. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Et ça, c'est l'appel, l'exhortation première de ce passage-là. Et comme je l'ai dit, on n'y arrivera pas tout seul. Nous avons besoin du corps du Christ. On en a parlé. Nous avons besoin de l'Église. Nous avons besoin de l'Esprit du Christ, l'Esprit qui nous libère de la loi. Et nous avons besoin des enseignements de Christ. Nous avons besoin de l'Évangile. L'apôtre Paul, il nous dit la chose suivante. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Je trouve ce passage intéressant parce que bien souvent, ce que ce passage nous dit, c'est qu'on a besoin de l'Évangile pour tout au long de notre vie de disciple. Et souvent, dans les milieux évangéliques, protestants évangéliques, on a eu tendance à dire l'Évangile, c'est la conversion. Je vais faire l'évangélisation, et puis dès que j'ai évangélisé, dès que les gens sont convertis, l'évangélisation, elle est finie. C'est pas ce que Paul dit ici. Paul, il dit, je vous rappelle l'Évangile, parce qu'en fait, vous en aurez besoin pour persévérer tout au long de votre vie. L'Évangile, c'est pour le début de la vie de foi, mais c'est aussi pour toute la vie de foi. C'est pour toute notre marche de disciple. Et c'est plongé dans l'Évangile, c'est par l'Évangile que l'on persévérera. Parce que par l'Évangile, on apprend à connaître Jésus-Christ, qui il était, on apprend à ajuster, à mieux voir, à mieux fixer les regards, à pouvoir préciser les choses, une juste compréhension sur qui on est, sur qui est Dieu. À la fois en tant qu'individu, mais aussi à la fois en tant qu'Église, en tant que communauté. L'Église en marche comme un royaume, vers le royaume. Il y a de nombreuses présentations, je ne rentre pas dans les détails par rapport à ça, il y a de nombreuses résumés synthétiques de qu'est-ce que c'est l'évangile. J'en ai découvert un, en tout cas j'en ai lu une partie de récemment, sur un historien qui s'appelle Olivier Bobineau, qui a résumé la vie et l'enseignement de Jésus en trois mots. Il propose de dire que l'enseignement de Jésus nous parle de don, de pardon et d'abandon. Jésus nous invite à vivre un amour qui se donne. Jésus nous apprend à vivre un amour qui pardonne. Et Jésus nous apprend à vivre un amour radical qui abandonne. Je n'aurai pas l'occasion de revenir plus en détail sur ça, mais j'ai prévu de le faire notamment lors du culte de rentrée, sur une prédication où je reprendrai ces thèmes-là. Et pour terminer, j'aimerais revenir sur le deuxième terme dont on a parlé tout à l'heure, persévérer radicalement. La notion de radical en français, elle a plusieurs sens. Les deux principaux, quand on dit qu'il y a un changement radical, on veut dire que il y a un changement qui est absolu, qui est définitif, qui est total. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, radical, c'est aussi puiser à la racine. C'est aussi ce qui appartient aux origines, aux sources. Donc comme je l'ai dit, une pensée radicale, c'est une pensée qui ne souffre pas la nuance. Et ces dernières décennies, il y a eu tout un vocabulaire qui s'est développé à ce sujet, ce qu'on appelait la radicalisation. Et donc, on parlait de repérer les signes de la radicalisation, mettre KO la radicalisation, il s'est radicalisé, il y avait même des centres de déradicalisation. Parce que l'idée, c'était que donc, la radicalisation, c'est ce processus par lequel une personne devient plus extrême dans ses points de vue et dans ses idées. Et qu'elle va revenir aux sources d'une idéologie ou d'une question. Alors, je ne sais pas si vous saviez, mais il se trouve que dans le christianisme, il y a une période dans l'histoire qu'on a appelée radicale. Lors de la Réforme, au XVIe siècle, c'est-à-dire au début du protestantisme, il y a eu des chrétiens qu'on a appelés les chrétiens radicaux. Et leur objectif, c'était d'aller plus loin que Luther et que Calvin en disant « il faut qu'on retourne aux sources de ce qu'a été l'Évangile, de ce qu'est l'Évangile ». Et notamment, ça a été l'occasion pour eux de remettre en avant le baptême des adultes, qui était pratiqué dans les premiers siècles, par immersion et sur confession de foi, parce qu'à l'époque, c'était quasiment plus qu'on baptisait les bébés. Ça a été en fait les premiers évangéliques modernes. Ils ont mis aussi en avant des notions comme la séparation entre l'Église et l'État, en disant le pouvoir religieux et le pouvoir politique, ça fait pas bon ménage quand c'est ensemble. Ou encore la recherche de la paix, la pratique de la non-violence, ou même l'amour de l'ennemi. Et j'aimerais vous raconter une courte histoire d'un de ces chrétiens-là, un chrétien qui a vécu au XVIe siècle. Il s'appelait Dirk Willem. Il a vécu aux Pays-Bas, donc dans cette période du XVIe siècle. Et Dirk, qui était chrétien, mais qui était chrétien donc dans un contexte qui ne lui était pas favorable, il a été arrêté, il a été jugé et il a été condamné pour sa foi. Mais il se trouve que dire qu'il a eu de la chance, il a réussi à s'évader de sa prison. En laissant tomber, alors on raconte qu'il a laissé tomber une corde faite de chiffons noués et il est atterri directement, il était dans un château, c'était une prison d'un château, et il a atterri directement sur les douves, donc il y avait du sol glacé. Il y avait de la glace parce que c'était l'hiver. Et vu les faibles rations qu'il avait mangées, en fait, Dirk Willem, il avait perdu beaucoup de poids, et du coup, il a pu courir sur la glace. Mais il y a un soldat qui l'a vu et qui l'a poursuivi. Et comme ce soldat-là, il était bien mieux nourri et qu'il était lourdement armé, et bien lui, par contre, sur la glace, il a entendu que ça craquait et tout d'un coup, pouf, il est tombé dans l'eau. Et Dirk Wilhelm, il s'est retourné. Il est revenu sur ses pas. Il a vu que la vie de son poursuivant était en danger. Et du coup, il est venu aider le poursuivant à sortir de l'eau. Ça lui a sauvé la vie. Alors le garde de la prison, ce qui est mentionné, c'est que le garde de la prison a voulu le relâcher, mais en fait les autorités n'ont pas accepté. Ils l'ont mis dans une prison plus sûre. Et peu après, Dirk Wilhelm a été amené à l'extérieur pour être brûlé vif le 16 mai 1569 par les autorités religieuses locales. L'histoire de Dirk Wilhelm, c'est une histoire de radicalisation. C'est une personne qui est revenue à la source, à la racine des enseignements de Jésus. Oui, parfois quand on puise à la racine de certains principes, de certaines idéologies, on peut devenir plus violent, plus intolérant. Mais quand on puise à la source de l'Évangile, dans les enseignements et dans l'exemple de Jésus, alors on radicalise son amour. On aime son prochain tel qu'il est, et on aime jusqu'à son ennemi. On aime jusqu'à donner sa vie. La plupart des idéologies qui radicalisent les gens, elles leur apprennent à tuer pour leur cause. Jésus, il nous apprend à mourir pour sa cause. Et ça, c'est radical. Radical parce que c'est un engagement total et absolu. Dirk Wilhelm, il a donné sa vie, mais à l'image de Jésus. Et radical aussi parce que ça nous fait plonger nos regards vers la source de notre foi. Vous vous rappelez ce passage, gardez les yeux fixés sur Jésus, le commencement ou le pionnier de notre foi, certains passages disent. C'est cette invitation-là que nous lance l'auteur de l'Épître aux Hébreux ce matin. Martin Luther King disait « Dieu n'est-il pas un extrémiste de l'amour ?» Alors ça peut paraître difficile, hein, c'est un sacré programme. Mais qu'on puisse se baser sur ces aspects, de savoir que notre persévérance, elle ne s'appuie pas sur nos forces, elle s'appuie sur la nuée de témoins qui nous entoure et qui nous a précédés, qui est un exemple pour nous. Elle s'appuie sur la liberté que nous avons et elle s'appuie sur la puissance et la force de l'Évangile qui est capable de donner sa vie, qui nous apprend à être capable de donner notre vie, même pour nos ennemis. En conclusion, j'aimerais vous laisser les paroles de l'apôtre Paul qui résument tout ça. Que le Seigneur dirige vos cœurs. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la persévérance ou la patience. C'est le même mot, c'est toujours le même mot qu'on a de Christ. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la persévérance et la patience de Christ. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, tu nous as montré la voie, tu nous as ouvert un chemin. C'est un chemin qui n'est pas facile, un chemin qui est étroit, le chemin de la persévérance et de la fidélité en toi, Seigneur. Et nous voulons nous appuyer sur toutes les forces que tu nous donnes, cette force de l'Évangile qui transforme et qui est radicale, cette force de la liberté que tu nous offres pour ne pas être écrasé par le fardeau, et cette force aussi de la communauté et de l'Église que tu mets à nos côtés. Seigneur, nous te prions que tu renouvelles en nous cette aspiration à te suivre, à t'aimer, et à voir aussi au travers de cette nuée de témoins aussi des exemples d'amour radical. Amen.